Chapitre 18. Motel Casa del Sol. L'enfer est tout entier dans ce mot. Solitude. Victor Hugo.
Évidemment, après la Bugatti, on peut trouver ça Rikiki, remarqua Billy avec une pointe de déception dans la voix.
Banlieue sud de San Diego, 19h, dans le hangar vétuste et sombre d'un garage miteux. Elle s'installa sur le siège avant de la voiture, une Fiat 500 des années 1960 sans enjoliveur ni chrome, que Santos, le garagiste qu'on nous avait conseillé, essayait de nous vendre comme s'il s'agissait d'un break familial.
« Bien sûr, le confort est un peu sommaire, mais vous pouvez me croire, c'est du solide. »«
Quelle idée tout de même de l'avoir repeinte en rose bonbon !»«
C'était la voiture de ma fille, » m'expliqua le chicano.
« Aïe !» répondit Billy en se cognant la tête. « Vous ne voulez pas dire plutôt la voiture de la Barbie de votre fille ?»
Je passai à mon tour la tête dans l'habitacle.
« La banquette arrière est arrachée, » constatai-je. « Ça vous laissera plus de place pour les bagages. »
En essayant de faire croire que j'y connaissais quelque chose, j'examinais les phares, les clignotants et l'état des feux. « Vous êtes certain que c'est aux normes ?»«
En tout cas, c'est aux normes mexicaines. »
Je regardais l'heure sur mon téléphone. Nous avions récupéré comme prévu les 28 000 $, mais entre le dépôt du tableau et la course en taxi pour rejoindre le garage, nous avions perdu beaucoup de temps. Cette voiture était presque bonne pour la casse, mais n'ayant pas de permis en règle, nous ne pouvions ni en louer ni en acheter une en passant par les circuits légaux. Elle présentait en outre l'avantage d'être immatriculée au Mexique, ce qui pouvait faciliter notre passage de la frontière. Finalement, Santos accepta de nous la céder pour 1 200 $, mais nous dûmes batailler plus d'un quart d'heure pour faire entrer ma grosse valise et les affaires de madame dans un espace aussi restreint.
Ce n'est pas cette voiture qu'on surnommait « le pot de yaourt » demandai-je en mobilisant toutes mes forces pour réussir à fermer le coffre.
El bote de yogur,
traduisit-il en faisant semblant de ne pas comprendre le lien entre la préparation laitière et l'épave qu'il était ravi de nous refourguer. Cette fois, c'est moi qui me mis au volant et c'est avec un peu d'appréhension que nous prîmes la route. Il faisait nuit. Nous n'étions pas dans l'un des endroits les plus cosy de San Diego et j'eus un peu de mal à me repérer au milieu d'une succession de parkings et de zones commerciales avant de rejoindre enfin la 805 qui menait au poste frontière. Les pneus couinaient et le ronflement nasillard du moteur de la Fiat avait remplacé le vrombissement rageur de la Bugatti.
« Passez donc la deuxième !» suggéra Billy.
« Je vous signale que je suis déjà en 4e. »
Elle regarda l'indicateur de vitesse qui marquait à peine 70 km/h.
« Vous êtes à fond !» constata-t-elle dépitée.
« Remarquez, comme ça, on est certain de ne pas faire d'excès de vitesse. »
Bon an, mal an, notre guimbarde nous mena jusqu'à l'immense poste frontière qui permettait de passer à Tijuana. Comme souvent, l'endroit était embouteillé et très animé. En m'engageant dans la file « Mexico only », je récapitulais les dernières consignes à ma passagère. « Normalement, dans ce sens, nous avons peu de risques de nous faire contrôler, mais si ça arrive, c'est la prison, pour vous comme pour moi, et cette fois impossible de passer en force. Alors on va éviter de jouer au con, d'accord ?»«
Je suis tout ouïe. »
dit-elle en clignant des yeux à la Betty Boop.
C'est très simple. Vous n'ouvrez pas la bouche et vous ne bougez pas un cil. Nous sommes deux honnêtes travailleurs mexicains qui rentrons chez nous, compris?
Vale, señor.
Et si vous pouviez arrêter de vous payer ma tête, ça me ferait des vacances.
Muy bien, señor.
Pour une fois, la fortune nous sourit. En moins de 5 minutes, nous fûmes de l'autre côté, sans contrôle ni embrouille. Comme nous l'avions fait jusqu'à présent, nous continuâmes à longer la côte. Par chance, le garagiste avait installé un vieil autoradio à cassette. Malheureusement, la seule cassette dans la boîte à gants était un album d'Enrique Iglesias qui semblait ravir Billy mais qui me cassa les oreilles jusqu'à Ensenada. Là, un orage éclata sans crier gare et une pluie diluvienne s'abattit sur nous. Le pare-brise était minuscule et les essuie-glaces tellement rudimentaires qu'il ne pouvait rien contre l'épais rideau de pluie, à tel point que j'étais obligé de passer fréquemment mon bras par la fenêtre pour les décoincer.
On s'arrête dès que l'on peut ?
J'allais vous le proposer.
Un premier motel se présenta sur notre route, mais il affichait complet. On n'y voyait pas à 3 mètres. Contraint de rouler à 20 à l'heure,
je m'attirais les reproches des véhicules qui me suivaient et qui m'escortèrent pendant un bon quart d'heure de leurs coups de klaxon impatients et furieux. Nous trouvâmes finalement refuge à San Telmo, dans le bien mal nommé Casa del Sol Motel, dont l'enseigne lumineuse grésillait et affichait un réconfortant « Vacancy ». À voir l'état des voitures garées sur le parking, je devinais que l'endroit ne devait pas avoir le charme et le confort d'un bed and breakfast. Mais après tout, nous n'étions pas en lune de miel. « On ne prend qu'une chambre, n'est-ce pas ?» me taquina-t-elle en poussant la porte de la réception. « Une chambre avec deux lits. Si vous croyez que je vais me jeter sur vous ?»« Je n'ai aucune crainte, en effet. Je ne suis pas jardinier, je ne suis pas votre genre. » Le réceptionniste nous salua d'un grognement. Billy demanda à visiter la chambre, mais j'attrapai la clé et payai par avance. « De toute façon, on ne peut pas aller ailleurs. Il pleut des cordes et je suis crevé. » Le bâtiment d'un étage s'articulait en forme de U autour d'une cour plantée d'arbres desséchés dont les silhouettes faméliques pliaient sous le vent. Sans surprise, la chambre était spartiate, faiblement éclairée, parfumée d'effluves douteux et décorée d'un mobilier qui avait dû être à la mode sous Eisenhower. Il y avait un poste de télé immense, monté sur quatre roulettes et équipé d'un haut-parleur situé sous l'écran. Un de ces modèles recherchés par les amateurs de vide-grenier. Vous vous rendez compte ? Plaisanta Billy. Sur cet écran, des types ont peut-être assisté aux premiers pas de l'homme sur la Lune ou même appris l'assassinat de Kennedy. Curieux, j'essayai d'allumer l'appareil. J'entendis un vague crachotement, mais ne pus capter aucune image. En tout cas, c'est pas là-dessus qu'on verra la prochaine finale du Super Bowl. Dans la salle de bain, la cabine de douche était spacieuse, mais le robinet recouvert de traces de rouille. Vous connaissez l'astuce ? Me dit Billy en souriant. C'est en regardant derrière la table de chevet que l'on voit si la poussière a été faite. Joignant le geste à la parole, elle déplaça le petit meuble et lâcha un cri. « Saleté !» dit-elle en envoyant son escarpin pour écraser un cafard. Puis elle se tourna vers moi, cherchant dans mes yeux un peu de réconfort. « On se fait notre petit dîner mexicain ?» Mais mon enthousiasme était retombé. « Écoutez, il n'y a pas de restaurant ici, il pleut comme vache qui pisse. » Je suis vanné et pas très chaud pour reprendre la voiture sous la flotte. Ouais, vous êtes comme tous les autres, très fort pour promettre, je vais me coucher, d'accord? Attendez, on va quand même prendre un verre. On a vu un petit bar en venant, à moins de 500 mètres. J'enlevai mes chaussures et me couchai sur l'un des lits. Allez-y sans moi, il est déjà tard et on a beaucoup de route à faire demain. Et puis, je n'aime pas les bars, en tout cas pas les bars de bord de route. Très bien, je vais y aller sans vous. Elle passa dans la salle de bain en prenant quelques affaires avec elle et je la vis ressortir un moment plus tard en jeans et veste de cuir cintrée. Elle était sur le point de partir, mais je sentais que quelque chose trottait dans sa tête. « Tout à l'heure, lorsque vous avez dit que vous n'étiez pas mon genre, » commença-t-elle. « Oui ?»« Dans votre tête, c'est quoi mon genre d'homme ?»«
Eh bien, ce connard de Jack, par exemple. » Ou encore cet Esteban qui n'a pas arrêté de vous reluquer pendant tout le voyage, encouragé par vos regards aguicheurs et votre tenue provocante.
C'est vraiment comme ça que vous me voyez ou vous souhaitez seulement me faire du mal?
Honnêtement, c'est comme ça que vous êtes, et je le sais d'autant mieux que c'est moi qui vous ai créé.
Son visage se ferma, et elle prit la porte sans rien ajouter. Attendez, dis-je en la rejoignant sur le seuil. Emportez quand même un peu d'argent. Elle me regarda avec défi. « Si vous me connaissiez vraiment, vous sauriez que dans un bar, je n'ai jamais eu besoin de payer un seul verre de ma vie. »
Resté seul, je pris une douche tiédasse, refis le bandage autour de ma cheville, puis ouvris ma valise à la recherche d'affaires pour la nuit. À l'intérieur, ainsi que l'avait dit Billy, m'attendait mon ordinateur qui m'apparut comme une sorte d'objet maléfique. Je déambulai quelques minutes dans la chambre, ouvris le placard pour y prendre ma veste et cherchai sans succès un oreiller. Dans le tiroir d'une des tables de nuit, à côté d'un exemplaire bon marché du Nouveau Testament, je trouvai deux livres, certainement oubliés par d'anciens clients. Le premier était le best-seller de Carlos Ruiz Zafón, La Sombra del Viento, dont je me souvenais d'avoir offert un exemplaire à Carole. Le second avait pour titre La Compañía de Los Angelos, et il me fallut un moment pour comprendre qu'il s'agissait de la traduction espagnole de mon premier roman. Je le feuilletai avec curiosité. La personne qui l'avait lu avait pris le soin de souligner quelques phrases et d'annoter certaines pages. Je ne saurais dire si ce lecteur avait aimé ou détesté mon texte, mais en tout cas l'histoire ne l'avait pas laissé indifférent, et c'est ce qui comptait le plus pour moi.
Ragaillardi par cette découverte inattendue, je m'installai sur le minuscule bureau en formica et allumai mon ordinateur. Et si l'envie était revenue? Et si je pouvais écrire à nouveau? Le système d'exploitation me demanda mon mot de passe. Graduellement, je sentais l'angoisse refaire surface, mais je cherchais à me convaincre que c'était plutôt de l'excitation. Lorsqu'un paysage paradisiaque apparut en fond d'écran, je lançai mon logiciel de traitement de texte qui s'ouvrit sur une page lumineuse. En haut de l'écran, le curseur clignotant attendait que je laisse courir mes doigts sur le clavier pour se mettre en mouvement. Alors mon pouls s'accéléra comme si on compressait mon muscle cardiaque entre les deux mâchoires d'un étau. Un vertige me saisit. Une nausée me souleva le cœur, si violente que... je fus obligé d'éteindre l'ordinateur. Et merde! Le blocage de l'écrivain. Le syndrome de la page blanche. Jamais je n'avais pensé que cela pourrait un jour m'affecter. Pour moi, la panne d'inspiration était réservée aux intellos qui prenaient la pause en se regardant écrire. Pas un accro de la fiction comme moi, qui inventait des histoires dans sa tête depuis qu'il avait 10 ans. Pour créer, certains artistes devaient provoquer leur désespoir lorsqu'ils n'en portaient pas assez en eux. D'autres se servaient de leur chagrin ou de leur dérive comme étincelle. Frank Sinatra avait composé « I'm a fool to want you » après sa rupture avec Ava Gardner. Apollinaire avait écrit « Sous le pont Mirabeau » après sa séparation d'avec Marie Laurencin. Et Stephen King avait souvent raconté qu'il avait écrit « Shining » sous l'emprise d'alcool et de drogue. À ma petite échelle, je n'avais jamais eu besoin d'excitant pour écrire. Pendant des années, j'avais travaillé tous les jours, Noël et Thanksgiving compris, pour canaliser mon imagination. Lorsque j'étais lancé, plus rien ne comptait. Je vivais ailleurs, en transe, dans un état hypnotique prolongé. Pendant ces périodes bénies, l'écriture était une drogue, plus euphorique que la plus pure des coques, plus délectable que la plus folle des ivresses. Mais à présent, tout ça était loin. Très loin. J'avais renoncé à l'écriture, et l'écriture ne voulait plus de moi. Barrette d'anxiolytique. Ne pas chercher à se croire plus fort qu'on ne l'est. Accepter sa dépendance avec humilité. Je me couchai, éteignis la lumière, me tournai et me retournai dans mon lit. Impossible de trouver le sommeil. Je me sentais si impuissant. Pourquoi n'étais-je plus capable d'exercer mon métier? Pourquoi étais-je devenu indifférent au devenir de mes personnages? Le vieux radio-réveil à lamelles indiquait presque 23 heures. Je commençais à m'inquiéter sérieusement pour Billy qui n'était toujours pas rentré. Pourquoi lui avais-je parlé si durement? Un peu parce que j'étais dépassé par son apparition et pas foutu de gérer son intrusion dans ma vie, mais aussi et surtout parce que je me savais incapable de trouver en moi des ressources pour la renvoyer dans son univers imaginaire. Je me levai, m'habillai en hâte et sortis sous la pluie. Je marchai pendant 10 bonnes minutes avant d'apercevoir une enseigne lumineuse verdâtre signalant au loin la présence de la Linterna Verde. C'était un bar populaire, fréquenté presque uniquement par des hommes. L'endroit était bondé et l'ambiance festive. La tequila coulait à flot et la sono usée déversait un rock saturé. Portant un plateau chargé de bouteilles, une serveuse passait de table en table pour les ravitailler en alcool. Derrière le comptoir, un perroquet rabougri amusait la galerie tandis qu'une autre barmaid, que des habitués appelaient Paloma, jouait les bombas en prenant les commandes. Je lui demandai une bière et elle me servit une Corona avec un quartier de citron inséré dans le goulot. Je parcourus l'assemblée d'un regard circulaire. La salle était décorée de paravents en bois peint qui rappelaient vaguement l'Armaya. Accrochées au mur, de vieilles photos de western côtoyaient quelques fanions de l'équipe de foot locale. Billy était assise au fond de la pièce, à la table de deux gaillards qui roulaient des mécaniques et rigolaient bruyamment. Ma bière à la main, je m'approchai du groupe. Elle me repéra, mais préféra m'ignorer. À voir les pupilles dilatées de la jeune femme, je devinais qu'elle avait déjà dû avaler quelques verres. Je connaissais ses failles, et je savais que l'alcool ne lui réussissait pas. Je connaissais aussi ce genre de mecs et leurs tactiques minables. Ces gars n'avaient pas inventé la machine à courber les bananes, mais ils possédaient un réel instinct pour repérer des femmes suffisamment vulnérables, prêtes à leur servir de proie. « Venez, je vous ramène à l'hôtel. »«
Foutez-moi la paix. Vous n'êtes ni mon père, ni mon mari. Je vous ai proposé de venir avec moi et vous m'avez craché à la gueule. »
Elle haussa les épaules tout en trempant une tortilla dans une coupelle de guacamole. « Allez, ne faites pas l'enfant. Vous ne tenez pas l'alcool, vous le savez. »«
Je tiens très bien l'alcool.
me provoqua-t-elle en empoignant la bouteille de mezcal qui trônait au milieu de la table pour s'en resservir un verre. Elle la passa ensuite à ses deux compères qui en prirent une rasade directement au goulot. Le plus musclé des deux, au t-shirt orné du prénom « Ressus », me tendit le flacon en signe d'initiation. Dubitatif, je regardais le petit scorpion qu'on avait plongé au fond de la bouteille pour respecter la croyance qui voulait que l'animal donne pouvoir et virilité.
« Je n'ai pas besoin de ça, » dis-je.
« Si tu ne veux pas boire, tu vas nous laisser, l'ami. Tu vois bien que la demoiselle prend du bon temps avec nous. »
Au lieu de rebrousser chemin, je me rapprochai encore d'un pas et plantai mon regard dans celui de Ressus. J'avais beau aimer Jane Austen et Dorothy Parker, j'avais aussi été élevé dans une cité. J'avais donné des coups et j'en avais reçu, y compris de types parfois armés de couteaux et autrement plus baraqués que la brute qui me faisait face.
« Toi, ta gueule !»
Puis je me tournai à nouveau vers Billy. « La dernière fois que vous avez pris une cuite, à Boston, ça ne s'est pas bien terminé. Vous vous souvenez ?» Elle me dévisagea avec mépris.
« Toujours les mots qui font mal. Toujours les mots qui blessent. Vous êtes décidément très fort dans ce registre. »
Juste après que Jack eut annulé en dernière minute leurs vacances à Hawaï, elle s'était rendue au Red Piano, un bar près du Old State House. Elle était vraiment affectée, presque au bout du rouleau. Pour tromper sa peine, elle s'était fait payer quelques vodkas par un dénommé Paul Waker, le gérant de plusieurs magasins d'une enseigne bien connue de commerce de proximité. Il avait proposé de la raccompagner chez elle. Elle n'avait pas dit non, ce qu'il avait compris comme un oui. Puis, dans le taxi, il avait commencé à la ploter. Là, elle avait manifesté son refus, mais peut-être pas assez fermement. Et le type avait estimé qu'il avait droit à une petite compensation, puisqu'il avait payé les verres. Elle avait la tête qui tournait, tellement qu'elle ne savait plus très bien elle-même ce qu'elle voulait. En bas de son immeuble, l'ami Paul s'était incrusté dans le hall et s'était invité pour un dernier verre. De guerre lasse, elle l'avait laissé monter avec elle dans l'ascenseur parce qu'elle avait peur qu'il ne réveille les voisins. Puis, elle ne se souvenait plus de rien. Elle s'était réveillée le lendemain matin, couchée sur son canapé, sa jupe relevée. Pendant plus de 3 mois, entre tests VIH et tests de grossesse, elle avait flippé à mort, mais n'avait pu se résoudre à porter plainte parce que, au fond, elle s'estimait en partie responsable de ce qui s'était passé. J'avais ravivé ce souvenir dégueulasse et à présent, elle me dévisageait, les larmes aux yeux.
« Pourquoi ? Pourquoi m'infligez-vous des saloperies pareilles dans vos romans ?»
La question me toucha en plein cœur. Ma réponse fut honnête. « Sans doute parce que vous portez en vous certains de mes démons. Ma part la plus noire, la plus détestable. Celle qui évoque en moi dégoût et incompréhension. Celle qui me fait perdre parfois tout respect pour moi-même. » Hébétée, elle ne semblait toujours pas vouloir me rejoindre. « Je vais vous raccompagner à l'hôtel, » insistai-je en lui tendant la main.
« Como chingas ?»
siffla Ressus entre ses dents. Je ne répondis pas à la provocation et ne lâchai pas Billy des yeux.
On ne peut s'en sortir qu'ensemble. Vous êtes ma chance et je suis la vôtre.
Elle allait me répondre lorsque Ressus me traita de roto, de pédé, expression que je connaissais parce qu'elle était le juron préféré de Teresa Rodriguez, une vieille hondurienne que j'employais comme femme de ménage et qui avait été la voisine de ma mère à MacArthur Park. Le coup de poing partit tout seul. Une vraie droite imparable, comme au bon vieux temps de mon adolescence, qui projeta Ressus sur une table voisine, faisant valser les pintes de bière et les tacos. Ce fut un beau bourre-pif, mais il n'y en eut malheureusement pas d'autre. En moins d'une seconde, une ambiance électrique parcourut la salle qui, ravie d'avoir un surcroît d'animation, accueillit par des cris ce début de bagarre. Venus de l'arrière, deux types me soulevèrent du sol tandis qu'un troisième larron me faisait regretter d'avoir foutu les pieds dans ce bar. Visage, foie, estomac, les coups pleuvaient sur moi à une vitesse stupéfiante et, confusément, ce passage à tabac me faisait du bien. Pas par masochisme, mais un peu comme si ce martyre était une étape sur le chemin de ma rédemption. La tête baissée, je sentais le goût féreux du sang qui s'écoulait de ma bouche. Devant mes yeux, des images stroboscopiques éclataient à intervalles réguliers. Mélange de souvenirs et de scènes qui se déroulaient dans la salle. Le regard amoureux d'Aurore sur les photos du magazine, à destination d'un autre type que moi. La trahison de Milo. Le regard perdu de Carole. Le tatouage sur le bas des reins de Paloma, la bomba latina qui venait d'augmenter le son de la musique et que je voyais se trémousser au rythme de la dérouillée qu'on était en train de m'infliger.
Quant à la silhouette de Billy, je la vis s'avancer, la bouteille au scorpion dans la main, pour la fracasser sur la tête d'un de mes agresseurs. L'ambiance se dégrada d'un coup. Je compris avec soulagement que la fête était finie. Je me sentis soulevé, porté par des bras dans la foule, avant d'atterrir dehors sous la pluie et de terminer ma course le nez dans une flaque boueuse.